Ce soir, c'est Nadine Morano qui est avec nous. Vous êtes eurodéputée, candidate sur la liste Les Républicains aux élections européennes. Merci beaucoup de nous accorder un peu de votre temps ce soir. On voulait vous entendre, évidemment, sur ce qui s'est passé aujourd'hui à l'Assemblée nationale. La question palestinienne qui électrise à nouveau l'hémicycle. Plusieurs députés de gauche qui se sont présentés habillés aux couleurs du drapeau palestinien lors de la séance des questions au gouvernement. Et une nouvelle fois, une députée, la France Insoumise, qui a brandi un drapeau palestinien. Cette fois, c'est la députée Rachel Keke, ce qui a provoqué une fois de plus une suspension de séance. Avant de vous entendre là-dessus, Nadine Morano, on va revenir sur les faits, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, Samy.
Oui, Julie, alors nouveau coup d'éclat en effet de la France insoumise à l'Assemblée nationale en soutien à la Palestine. Alors cela s'est passé en deux temps cet après-midi. D'abord, il y a eu ces députés issus de la gauche qui sont venus habillés au drapeau, aux couleurs plutôt du drapeau palestinien, vert, blanc, rouge et noir. Une mise en scène soigneusement préparée. Regardez la séquence.
Je vous remercie, monsieur le député.
Alors, c'était une autre vidéo que vous allez voir dans un instant. Alors, jusque-là, la réaction, assez tenue était mesurée de la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet. Mais c'est à la fin, et vous l'avez vu de cette séquence et de ses vêtements, que Rachel Keke est allée plus loin. Elle a brandi, vous l'avez vu, ce drapeau palestinien, comme l'avait fait Sébastien Delogu. Et là, l'ambiance, vous l'avez vu justement, cette séquence était beaucoup plus électrique. Alors, Rachel Keke, elle a écopé d'abord, d'un rappel au règlement avec inscription au procès-verbal, mais le bureau de l'Assemblée nationale sera convoqué, en tout cas dans les prochains jours, pour une possible sanction plus lourde. Rachel Keke, justement, était au micro de BFM TV tout à l'heure. Pour elle, il faut que ce geste se répète. Regardez.
Ce qui se passe en Palestine, on ne doit pas laisser comme ça se passer, parce que ce qui se passe là-bas avec les enfants, c'est vraiment grave. Et je me mets à la place des Palestiniens si c'était mon enfant qu'on bombardait comme ça. On ne peut pas se taire dessus. Donc je pense que chaque semaine, chaque mardi, aux questions au gouvernement, il faut qu'il y ait un drapeau palestinien pour faire craquer le gouvernement à prendre ses responsabilités.
Voilà, chaque semaine, ils recommenceront l'objectif montrer la solidarité avec la population de Gaza où l'on compte des dizaines de milliers de morts. Cet argument-là, Nadine Morano, est-ce que vous le comprenez ou pas du tout ?
Ah non, mais vous savez, j'ai été députée nationale et je suis profondément scandalisée de voir ce qui se passe à l'heure actuelle dans cet hémicycle, où bien évidemment la cause palestinienne est instrumentalisée. On ne parle plus des Français dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Ça n'intéresse pas la France insoumise. Et d'ailleurs, la cause du peuple palestinien ne les intéresse pas non plus, en fait. Parce que on sait très bien que le Hamas, dont les dirigeants sont au Qatar et croulent sous les milliards, n'en ont strictement rien à faire à ce que cette cause soit vraiment défendue et à ce que le peuple palestinien aille mieux et ce qu'il n'y ait plus la guerre là-bas.
Donc, mais est-ce que c'est pas le rôle quand même des députés français aussi de soulever aussi ce qui est en train de se passer là-bas, d'éveiller les consciences à ce sujet.
Madame, éveiller les consciences, c'est rappeler qu'Israël est une démocratie qui a été attaquée. Et comme vous le savez, je me suis rendue après les attentats du 7 octobre dans le kibboutz de Berry. Je me suis rendue à Sderot. J'ai vu les images qui ont été tournés pendant les massacres par le Hamas. Je sais qu'il y a là-bas, dans les tunnels de Gaza, des enfants israéliens qui sont retenus en otage, des personnes âgées, des femmes qui sont encore là-bas en otage. Et je trouve légitime, vous le feriez aussi, que le peuple d'Israël, que les autorités israéliennes aillent chercher leurs enfants dans ce territoire où ils sont retenus. Donc moi je trouve ça profondément scandaleux ce qui se passe. On sait très bien que les élections européennes ont lieu dans 6 jours et que au-delà de ce comportement des députés qui pour moi se comportent en anti-France, ne s'occupent pas des intérêts des Français et de la France, il y a aussi une autre liste qui s'appelle Free Palestine, qui est autant dangereuse, voire plus dangereuse que LFI, qui a déposé une liste de candidatures aux élections européennes, qui n'a pas les moyens d'imprimer des bulletins de vote, mais qui sont imprimables en ligne et dont on sait que sur ce bulletin de vote figure la disparition de l'État d'Israël. Voilà où on en est en France, madame.
Pour vous, c'est de l'antisémitisme. On va écouter ce que dit Alexis Corbière, député de la France Insoumise. Écoutez bien, il parle aussi de la libération des otages. On écoute.
Nous voulions considérer, premièrement aujourd'hui, réaffirmer que la France doit reconnaître l'État palestinien, qu'elle doit tout faire pour obtenir un cessez-le-feu, bien sûr demander la libération des otages, créer les conditions de la paix dans cette région, et que pour l'instant nous considérons qu'hormis des paroles, rien n'est fait véritablement de la part de la France pour faire pression sur le gouvernement de Netanyahou, et les victimes sont là, et beaucoup de nos concitoyens sont horrifiés par la situation. Nous qui sommes passionnément français, passionnément républicains, qui sont internationalistes aux côtés de tous les peuples qui souffrent, qui avons fait une minute de silence après le 7 octobre à la mémoire des victimes israéliennes. Aujourd'hui, nous voulons que personne n'oublie le martyr actuel.
On peut demander la libération des otages, c'est ce qu'il dit, tout en n'oubliant pas le martyr, pour reprendre les termes du député Alexis Corbière.
Écoutez, la guerre, c'est un drame. La guerre, c'est quelque chose d'horrible. Personne ne peut rester insensible à la mort d'un enfant, de quelque nationalité qu'il soit. La réalité, c'est qu'il n'y a pas eu d'élection en Palestine depuis 2006, que le Parlement de l'Autorité palestinienne ne s'est pas réuni depuis 2007, que donc on voit bien que cet État, enfin c'est pas un État d'ailleurs, l'Autorité palestinienne est complètement exempt aujourd'hui, et que reconnaître un État palestinien, alors que la France a toujours été favorable à la solution de deux États, quand l'un des voisins veut la destruction d'Israël, et que dans la charte du Hamas, il y a cette destruction d'Israël. La solution n'est pas possible. Et vous voyez bien que si cette situation politique est instrumentalisée aujourd'hui, à ce point, à 6 jours des élections européennes, c'est qu'ils en font un message politique à destination des banlieues et des quartiers. C'est ça, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Comme le fait la liste, encore une fois, vous n'en parlez jamais. Mais cette liste, elle est extrêmement dangereuse. Vous savez qu'il y a une liste en France qui a été déposée officiellement, qui s'appelle Free Palestine. Même s'ils n'ont pas les moyens de se payer des bulletins de vote, et même s'ils les ont mis sur leur site pour pouvoir les imprimer en ligne, on sait très bien que c'est un message à destination des quartiers, que ceux qui vivent dans les quartiers, dont on voit bien qu'ils veulent évidemment en faire une cause politique qui vient s'ingérer comme ça en France. On importe un conflit en France et il y en a marre, en fait.
Alors,
les députés français ont été élus pour
Nadine Morano,
du pouvoir d'achat et de la sécurité des Français, et qu'on arrête à chaque fois de mettre, alors que c'est interdit et qu'il faut respecter les règles, le drapeau d'un autre État.
Christophe
au sein de l'hémicycle
Barbier avait une question à vous poser,
oui,
Nadine Morano.
Sur ce sujet, justement, Nadine Morano, cette liste Free Palestine existait il y a déjà 5 ans. Vous voyez la stratégie développée par la France Insoumise. Est-ce que ça marche, selon vous, dans une ville que vous connaissez bien, par exemple, comme Toul, ou dans l'ensemble des villes de l'Est français? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il va y avoir un électorat pour venir voter LFI ou Free Palestine sur cette base idéologique? Au gouvernement, certains s'inquiètent. On a vu un pic d'inscription, disent-ils, dans les quartiers sensibles à ces thématiques. Est-ce que vous le craignez?
Mais bien sûr, je le crains. Mais quand vous voyez qu'il y a eu des manifestations où vous avez plus de 2000 personnes qui défilent sur cette question, on voit bien d'ailleurs que la situation réelle du peuple palestinien, en fait, n'intéresse pas vraiment. On voit bien que c'est même plus la question de la situation de ces personnes civiles dont il faudrait bien s'occuper, parce que la réalité politique voudrait que on pose le vrai débat de comment organiser des élections sur ce territoire, comment faire en sorte qu'ils vivent en démocratie. Et on voit bien que cette situation est instrumentalisée en France, que, comme vous le dites, il y a une sensibilisation de cette liste de Free Palestine comme de la France Insoumise. Et en fait, il y a une forme de rivalité aujourd'hui. On voit bien, oui, que cette surenchère qui est faite au sein de l'hémicycle à l'Assemblée nationale par LFI démontre la crainte qu'ils ont de voir monter cette autre liste et donc de faire baisser en dessous de 5% la liste de la LFI, oui, et qui compromettrait de pouvoir faire arriver au Parlement européen Rima Hassan, qu'ils ont
considéré comme
une espèce d'égérie.
Vous restez avec nous, Nadine Morano. Je voulais faire réagir également le plateau. En l'occurrence, c'est pas que la France insoumise ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Il y a aussi les écologistes, les communistes dépêche. Qui c'est se sont dépêche. Habillés aux couleurs du drapeau palestinien. Oui. Est-ce que pour vous, ce qui se passe là en ce moment à l'Assemblée, qui se répète de semaine en semaine et qui est visiblement voué à se répéter, Nora, c'est purement électoraliste, comme le dit Nadine Morano?
Alors, il ne faut pas oublier le contexte électoral, évidemment. Ouais. Ça, de toute façon, c'est une toile de fond qu'il faut avoir en tête. Pour autant, on voit bien, n'en déplaise à Nadine Morano, que les manifestations depuis quelques semaines, elles sont massives. Il faut voir aussi, parce qu'elle est députée européenne, ce qui s'est passé chez nos voisins, notamment chez les Anglais. Enfin, on a, et encore aujourd'hui, la Slovénie, un membre de l'Union européenne, a reconnu l'État de Palestine, après l'Irlande, après l'Espagne. Il y a des gros débats qui se posent aussi aujourd'hui au niveau européen, et ça, Madame Morano, en tant que députée européenne, ne peut que l'admettre, sur l'accord d'association. Il s'avère que l'Union européenne est le premier partenaire à la fois de la Palestine, mais aussi d'Israël, en termes commerciaux, mais aussi par exemple en termes d'échanges avec les universités, d'échanges commerciaux, en termes de recherche et de développement. Le premier bailleur de l'autorité palestinienne, ce sont aussi les Européens. Donc clairement, non, il ne s'agit pas juste d'un enjeu électoral. Les gens sont profondément choqués. Regardez ce qu'on a vu comme image la semaine dernière à Rafah. Quand on voit ce monsieur porter un corps décapité d'enfant, comment ne pouvons-nous pas être choqués juste en termes d'humanité? Donc là-dessus, on peut très bien pointer le contexte électoral, mais à un moment, on est aussi face à une guerre, à une guerre qui compte aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers de morts. Évidemment, les otages doivent être libérés, mais là-dedans, on ne peut pas juste nier qu'il y a un profond levier qui est en train de se passer dans la population, quelle qu'elle soit, dans toute l'Europe, dans le monde entier, y compris aux États-Unis, en Australie. On voit aujourd'hui en Afrique, dans le monde arabe. Enfin, ce conflit, il n'est pas anodin. Ce n'est pas juste quelque chose qu'il faut renvoyer à une identité estampillée banlieusarde, donc ça n'intéresserait que des gens qui se sentent justement peut-être proches d'une forme d'identité des Palestiniens. Pas du tout, c'est pas absolument pas ce qu'on voit dans les manifestations, primo. Et deuxièmement, ça dit à quel point nous sommes dans un échec politique collectif. Voilà, l'État d'Israël a été créé en 1948, l'État palestinien devait naître dans la foulée. Qu'en est-il aujourd'hui? Rien. Véritablement, il y a quelque chose...
Pas de reconnaissance émotionnelle, dit Emmanuel Macron la semaine dernière.
Et c'est bien le sujet, c'est qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de poser sur l'agenda politique cette possibilité de reconnaissance, à tout le moins au niveau européen aussi, cette possibilité de rediscuter de l'accord d'association au vu de ce qui se passe. Regardez, Joe Biden a mis un accord sur la table et aujourd'hui il est balayé par Benjamin Netanyahu.
Perico Legas, certains disent aussi, au regard effectivement de la gravité de ce qui se passe là-bas, ces dizaines de milliers d'enfants qui meurent à Gaza, brandir un drapeau, c'est pas si grave.
Oui, Nadine Morano parle avec la voix du bon sens. C'est un combat entre salauds. Entre fous furieux et entre salauds. Ceux qui considèrent que ce qui s'est passé le 7 octobre est une réaction de légitime défense du peuple palestinien opprimé sont des salauds. Et ceux qui disent que Israël a tous les droits pour faire ce qui se passe à Gaza sont des salauds. Ceux qui disent que l'État d'Israël doit être poussé à la mer sont des salauds, des fous furieux. Et ceux qui disent qu'il n'y aura jamais d'État palestinien sont des salauds. Et aujourd'hui, le débat entre salauds est dans l'Assemblée nationale. Parce qu'il y a les deux opinions qui se confrontent. Et les deux sont intenables. Israël doit être garanti dans ses frontières. La nation israélienne est l'honneur de l'humanité. Et nous donnerons notre vie. On ne fera pas de rancis en France, parce que l'antisémitisme est en train de monter. On ne refera pas de rancis en France. Là, on ne se laissera pas avoir. On sortira dans la rue. Si on se met à s'en prendre aux Juifs, parce qu'ils sont Juifs, c'est-à-dire complices d'Israël, parce qu'en fait, c'est de l'anti-israélisme.
On se met déjà à s'en prendre aux Juifs.
Et ceux qui disent ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé le 7 octobre, fait que Tzahal a tous les droits, l'éradication du Hamas est une priorité, tant pis pour les dégâts collatéraux, même si on ne dit pas comme ça, c'est inadmissible, c'est ignoble.
Ce que dit Nadine Morano.
Non. Nadine Morano fait bien la part des choses. Elle est très précise là-dessus, voilà. On fait souvent dire aux gens ce qu'ils ne veulent pas dire. Le débat, il est là. Et nous sommes des citoyens de la République française dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et quand je vois des députés de la nation, ils sont députés de la nation, ils ont des devoirs plus que des droits. Ils ont un devoir d'exemplarité. Ils sont les représentants du peuple. J'aimerais bien savoir ce que pensent leurs électeurs. Moi, je rencontre les électeurs de la France insoumise. On voit les sondages. Ils sont effondrés parce qu'ils entendent. Voilà. Et je vois aussi des gens qui disent, bien sûr que l'État d'Israël, c'est le gouvernement Netanyahou. Je redis toujours ici, c'est dû à un système électoral d'une proportionnelle intégrale qui permet à Netanyahou d'avoir une majorité à la Knesset pour quelques voix tenues par des partis religieux. Il y aurait un autre système électoral ou un autre système proportionnel, il n'y aurait pas de gouvernement Netanyahou. Peut-être que l'histoire aurait été différente. C'est bien un intégriste juif qui a tué Yitzhak Rabin quand on était au point d'obtenir les deux États. La paix sera faite quand il y aura deux États, et je crois qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pense, on n'en a jamais été aussi proche, parce que la tragédie de la situation va peut-être obliger les forces en puissance à se mettre d'accord.
Jean-Luc Mélenchon, dans un meeting pas plus tard qu'hier, a dit qu'il souhaitait désormais un État binational, c'est-dire qu'il rejoint la ligne Rima Hassan contre...
Mais bien sûr,
dans un instant, on va réécouter Nadine Morano, qui est toujours avec nous, évidemment. Mais juste avant, je voulais vous entendre, vous, Arnaud Stéphane, sur ce sujet. On a rarement vu une Assemblée nationale aussi agitée. Ça vous choque, ce qui se passe en ce moment dans l'hémicycle ?
Je ne suis pas choqué, parce que je ne suis pas surpris par la stratégie qui est employée par la France Insoumise et certains des alliés de la NUPES. Parce que c'est une stratégie politique, ils ont une culture politique, ils viennent de là où ils viennent, c'est un moyen de faire de l'agit-prop, c'est un moyen de faire de la politique.
C'est du trotskisme.
C'est de faire passer un certain message. Il y a un certain nombre d'entre eux qui font en effet partie d'organisations trotskistes.
Il y a une méthode.
Faut pas oublier que parmi les députés de la NUPES, il y a quand même le secrétaire général du Parti ouvrier internationaliste, le POI, qui est héritier.
Et il y a Ruffin qui est exemplaire là-dessus.
Voilà.
Et qui tient le langage de la vérité.
Et c'est un moyen de faire de la politique. Alors quelquefois ça peut paraître scandaleux, ça peut paraître aussi un peu gaguesque, hein, parce que moi je vois voir Adria Quatennens en smoking blanc type Boys to Men, j'avoue que j'étais pas prêt en vérité à voir cette image, mais enfin bon bref, c'est pas grave. Mais en revanche, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est pas normal que ça se passe dans l'hémicycle. D'habitude, on faisait ce genre d'happening en dehors de l'hémicycle. L'hémicycle, il y a même autour de l'hémicycle, il y a ce qu'on appelle la zone sacrée. Voilà, on a le périmètre sacré. Il y a un côté sacré dans l'hémicycle. Voilà, vous n'avez pas le droit, quand vous êtes dans les tribunes, de montrer votre appartenance. J'ai été assistant parlementaire. On nous faisait tourner nos badges pour pas qu'on voit de qui nous étions les assistants parlementaires, pour pas que les gens qui étaient autour
Sauf
de nous.
Sauf que eux la disent, il y a rien qui bouge. Donc il faut qu'on mène des actions comme ça.
Le problème, c'est que ce n'est même pas l'Assemblée nationale. C'est pas l'Assemblée nationale que ça se passe et que les députés, eux. Veuille appuyer quelque chose et décide de sensibiliser la population française à quelque chose, d'accord. Mais prendre à partie l'Assemblée nationale pour en faire un fouillis...
Mais c'est parce pas qu'il un fouillis, c'est un lieu politique.
Non, oui, mais c'est pas le lieu de faire de l'agit-prop. L'Assemblée nationale, c'est pas ce jeu-là.
C'est un espace politique.
Oui, mais c'est pas la première fois, vous voyez ce que je veux dire.
Mais c'est un espace politique.
C'est pas la première fois. Et quand ça se multiplie... Non, mais que vous preniez la parole et qu'il y a eu de très grands orateurs à l'Assemblée nationale, c'est un peu plus difficile d'avoir des lettres, d'être un bon orateur et de pouvoir, par la parole, par la conviction... Par la raison.
Par la joute aussi.
Et par la joute, oui.
Mais pas par l'image.
Mais là, c'est la facilité, en fait.
En tant que leçon d'instruction civique, c'est pas terrible pour les élèves qui sont dans les écoles et qui regardent
cette scène. Non, mais vous ne pourrez pas objecter à un moment que c'est un espace politique et à défaut de pouvoir porter cette question et la question, par exemple, du deux poids, deux mesures, du double standard qui se pose depuis des années aujourd'hui dans l'espace européen et en France, que ce soit sur ce qui se passe en Ukraine, et on en a parlé tout à l'heure, avec ce qui se passe à Gaza, ce qui s'est passé en Syrie, ça, c'est quelque chose, en fait, qu'il faut savoir poser. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est globalement balayé.
Mais il est mieux posé par des questions et on met le gouvernement en difficulté dans sa réponse que par un brandissement de drapeau et une suspension de séance.
Au pire moment de la guerre d'Algérie, jamais un député qui était pour l'Algérie algérienne n'a brandi un drapeau.
Et Nadine Morano est toujours avec nous.
Le Parti communiste était très puissant à l'époque.
On le rappelle, le bureau justement a décidé qu'il se réunirait un petit peu plus tard pour décider d'une éventuelle sanction un peu plus lourde. Sébastien de Logu, qui est le précédent député de la France Insoumise à avoir brandi un drapeau dans les que lui a écopé de 15 jours d'exclusion. Est-ce que vous souhaitez une sanction plus lourde à l'égard de la députée Rachel Keke ?
Ah oui, je souhaite qu'il y ait une sanction plus lourde, mais pas qu'à l'égard de celle qui a tenu le drapeau, Rachel Keke, mais aussi tous ceux qui les entourent et qui applaudissent et qui participent à ce cirque. Je voudrais dire aussi à votre journaliste Nora Amadi, là, que moi, là, je là, sais très
Nora
bien
Amadi,
que c'est...
Là, oui. C'est moi. Je vous écoute, non, Madame Morano.
Non, mais pardon, Madame Nora m'a dit c'est difficile, je suis en duplex, donc je cherchais votre nom. de dire que, voyez, il y a d'autres conflits dans le monde. Il y a la guerre au Yémen, il y a l'insurrection au Yémen, il y a la guerre en Syrie, il y a la guerre en Afghanistan, il y a la guerre en Ukraine. Est-ce que vous voyez la même instrumentalisation dans l'hémicycle? Est-ce que vous voyez qu'il y a des manifestations? Vous parliez de manifestations, je suis allée discuter avec des gens qui manifestaient justement pour la soi-disant cause syrienne. Je me suis aperçue à quel point ils y connaissaient rien. Je me suis aperçue à quel point ils ne savaient pas qu'il restait des otages, qu'il y a des otages israéliens qui sont retenus dans la bande de Gaza. Je me suis aperçue que personne ne savait pourquoi est-ce qu'on permettait pas aux Palestiniens d'aller juste de l'autre côté de la frontière en Égypte ou d'aller vers les pays arabes. Aucun n'en parle. Je me suis aperçue que personne ne savait que Menahem Begin et Anwar El Sadat avaient tous les deux aussi été assassinés en leur temps et qu'ils avaient été des personnalités qui cherchaient la paix. Bon.
On pourrait objecter que beaucoup de gens aussi ne connaissent pas la réalité de ce qui se passe en Ukraine, ni les acteurs, ni même en Russie, Madame Morano.
Madame Amadi,
juste
Madame
il y a une part
Amadi.
D'humanité à se dire qu'il faut que Madame tout Amadi. Ça s'arrête. Vous ne Madame pourrez pas Amadi. Objecter que vous souhaitez aussi que tout ça s'arrête.
Mais,
est-ce
mais
que vous souhaitez
sûr,
que
Madame
tout ça
Amadi.
S'arrête?
Madame voilà. Amadi, il y a une seule formation politique qui instrumentalise ce conflit et qui instrumentalise la mort d'enfants en Palestine, tout comme la mort d'enfants israéliens. Qui ont été abattus, tous ces jeunes qui dansaient pour la paix, qui étaient au festival Nova, qui dansaient pour la paix, qui ont été abattus comme des chiens.
Mais on est
donc,
d'accord.
Ça, c'est
mais
bizarre.
À aucun moment, il est
aujourd'hui.
Question de concurrence entre les victimes,
non,
Madame Morano.
Justement.
Et c'est bien ça. Et on est d'accord.
Madame Amati, c'est pas une question de concurrence, c'est une question de remettre les choses dans le bon sens. Il y a eu un État qui a été attaqué et il y a des enfants qui sont retenus en otage. Et il y a un État démocratique qui essaye d'aller chercher ces enfants qui sont retenus en otage. Et
est-ce
il y a un État démocratique.
Est-ce que ça légitime, Madame Morano, plusieurs dizaines de milliers de morts, dont des enfants?
Mais Madame Amati, on est tous peinés par ces enfants qui peuvent perdre la vie, comme les femmes aussi. Vous savez, quand j'entends ces discours qui consistent juste à citer les enfants qui meurent, alors qu'il y a aussi des adultes qui meurent, ça me fait penser, vous savez, aux passeurs
vous venez de
qui
citer
instrumentalisent
les...
l'immigration illégale et qui font en sorte de mettre sur un bateau un enfant. Parce que si un enfant meurt pendant le passage à la Méditerranée, sur la Méditerranée, c'est encore un bénéfice de culpabilisation supplémentaire. Donc moi, un enfant qui meurt, qu'il soit palestinien, qu'il soit israélien ou de toute autre nationalité, c'est un drame, madame. Mais ce qui est un drame, c'est quand un peuple est attaqué et qu'il a la légitimité de se défendre et d'aller chercher ses enfants qui sont retenus dans des tunnels. Les morts qui sont des victimes collatérales sont la responsabilité du Hamas. Et du Hamas
donc,
seul,
est-ce qu'il faudra
madame.
Aller au bout,
du
Madame
Hamas
Morano? Est-ce
seul,
qu'il faudra du
seul.
Coup exterminer jusqu'au dernier pour que tout cela s'arrête?
Madame, je ne connais aucune démocratie qui, quand il est en guerre contre un autre État, comme le fait Israël, prévient par SMS sur le téléphone portable la population civile qu'il y aura une attaque et lui demande de se mettre en sécurité.
Oui, mais vous savez bien, Nadine Morano, vous savez bien qu'il n'y a plus aucun endroit. Vous savez bien, Nadine Morano, pardonnez-moi. Vous savez bien qu'il n'y a plus aucun endroit sûr où se réfugier à Gaza. J'aimerais qu'on avance un petit peu. C'est dans ce contexte international très tendu qu'Emmanuel Macron prendra la parole à 20h ce jeudi sur l'Europe, les questions internationales, à l'occasion, on le sait, du 80e anniversaire du débarquement allié en Normandie. Les Républicains, notamment, ont décidé de saisir l'ARCOM pour que son temps de parole soit décompté. L'ARCOM a répondu. En vous rassurant, en quelque sorte, toute ou partie des propos tenus lors de cette interview pourra être prise en compte. Voilà ce que répond l'ARCOM. Est-ce qu'il n'est pas dans son rôle, Emmanuel Macron, de prendre la parole dans ce contexte pour les 80 ans du débarquement et alors qu'il y a cette guerre à Gaza, cette guerre en Ukraine?
Bah, vous savez très bien qu'il peut y avoir une confusion des genres dans les propos qu'il tiendra. C'est l'ARCOM qui devra le déterminer. En tous les cas, je voudrais dire à ceux qui nous regardent, parce qu'on va fêter ce 80e anniversaire du débarquement, et moi j'ai 60 ans, j'appartiens à la première génération qui n'a pas connu la guerre. Vous voyez, ici à côté de Toul, à Andilly, il y a le plus grand cimetière militaire allemand de France. Il y a 35 085 soldats qui sont enterrés en dessous, c'est-à-dire l'équivalent des habitants de la ville de Toul et tous les villages aux alentours. Un peu plus loin, il y a le cimetière américain à Saint-Mihiel, et il y a les nécropoles françaises à Fliret et dans d'autres communes. Tout cela nous rappelle que l'ADN de la construction de l'Union européenne, c'est d'abord la paix qui a été voulue grâce au général de Gaulle et grâce à Adenauer. Moi, j'appartiens à cette filiation avec François-Xavier Bellamy, cette filiation gaulliste qui a toujours travaillé pour la paix et pour la construction de l'Europe des nations. Alors oui, c'est très bien de fêter le 80e anniversaire du débarquement, parce que je voudrais que toutes les générations confondues en France, ceux qui ont mon âge, mais aussi les personnes les plus jeunes, comprennent que la paix, c'est toujours un miracle politique et c'est un effort permanent. Nous avons cette chance de vivre cela dans les 27 pays de l'Union européenne. Nous devons le préserver.
Est-ce qu'il est trop présent, Emmanuel Macron, selon vous ?
Je crois surtout que Madame Ayer est à la peine dans cette campagne, mais elle est à la peine non pas parce qu'elle manque de talent, comme on voudrait le faire croire. Je pense qu'elle est surtout à la peine parce qu'elle doit porter sur ses épaules le catastrophique bilan d'Emmanuel Macron. Je vous rappelle que la presse, il n'y a pas plus tard que cette semaine et la semaine dernière, titrait depuis que la France a eu sa note financière dégradée, que la France était le cancre de l'Europe sur ses résultats économiques. Elle est aussi le cancre de l'Europe en matière de maîtrise de l'immigration. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, nous sommes à la fois sur les déficits publics, sur la dette, nous sommes le bonnet d'âne de l'Union européenne et c'est regrettable. Donc aujourd'hui, c'est cela qu'elle porte sur son dos et c'est ce qui alourdit sans doute sa campagne pour les élections européennes.
Et pourtant, Nadine Morano, il reste très loin, le camp Renaissance, devant le camp Les Républicains, qui n'est crédité que de 7 à 8% des intentions de vote dans les sondages. Est-ce qu'il n'est pas difficile quand même d'exister dans ce match Rassemblement National-Renaissance ?
Écoutez, d'abord, je pense que tous ceux, et même d'ailleurs les observateurs, nombreux journalistes disent que François-Xavier Bellamy, sur le fond, et même sur l'attitude qu'il a, sur la forme, est sans doute le meilleur candidat pour ces élections européennes. Et nous avons la chance de l'avoir dans notre famille politique. Il incarne ce renouvellement chez les Républicains et je m'en réjouis. Après, si vous voulez, ce match entre Emmanuel Macron et le Rassemblement National, il est orchestré à chaque fois, puisque c'est un peu l'assurance vie de Renaissance. Vous voyez bien que Emmanuel Macron a demandé un débat à Marine Le Pen. Vous voyez bien que Gabriel Attal a débattu aussi avec la tête de liste Jordan Bardella du Rassemblement National. Donc, pour tenter d'occulter ceux qui portent à la limite et ceux qui vont représenter, parce que vous savez, je suis allée à la rencontre des gens à Nancy aujourd'hui. Je suis allée à la rencontre des gens à Toul, dans les commerces, et je me suis aperçue que peu de gens savaient qu'en fait, il y a des élections dans les 27 pays de l'Union européenne et qu'il faudra élire 720 députés pour siéger dans ce Parlement et qu'il faudra en élire 81 en France et qu'ensuite, ces députés vont siéger dans des groupes politiques. Il se trouve que c'est ma formation politique qui siégera dans le groupe qui aura le plus d'influence et que Jordan Bardella, même s'il gagne à nouveau, comme il l'a fait en 2019, eh bien, il sera ultra, ultra minoritaire. Alors, les gens se feront plaisir le dimanche pour dire on a mis une claque électorale à Emmanuel Macron, mais la claque électorale efficace, ce serait de voter pour quelqu'un qui a de l'influence au Parlement européen, à savoir la liste dans laquelle je suis avec François-Xavier Bellamy et avec l'ensemble de mes collègues.
Éric Zemmour, d'ailleurs, était sur le plateau de BFM TV tout à l'heure. Il a critiqué Jordan Bardella et son absence au Parlement européen. Je voulais vous entendre là-dessus. On écoute juste avant Éric Zemmour.
Moi, je trouve que le vote Bardella est un vote deux fois inutile. Il est inutile en Europe parce que les députés RN, ils peuvent être 20, 25, 30, 35, 40, ils sont dans un groupe ID qui est complètement ostracisé et avec qui personne ne veut s'allier. D'ailleurs, Monsieur Bardella ne met jamais les pieds au Parlement européen. Vous savez qu'on le surnomme Bardépala. Donc, si vous voulez, en Europe, on sait que les députés, ça fait deux fois que le RN gagne les élections européennes, en 2014, en 2019. Qu'est-ce qui a changé ? Rien.
Bardépala, visiblement, c'est le surnom de Jordan Bardella, tellement il est absent au Parlement européen. Ça lui va bien, ce petit surnom, vous, l'eurodéputé ? Vous trouvez que ça, c'est approprié ?
Je trouve qu'Éric Zemmour est un peu gonflé parce que lui, si vous voulez, qui appelle toujours à dire que c'est les seuls à vouloir dire l'union des droites, il passe son temps à taper sur les Républicains, à bras raccourcis, à taper sur le Rassemblement National, à créer une nouvelle droite et donc à être un des diviseurs de la droite. Quant à lui, si le vote pour Jordan Bardella est un vote inutile, alors le vote pour la liste Reconquête, c'est une voix perdue, mais archi perdue. Parce que si Jordan Bardella doit siéger dans le groupe Idées, Identité et Démocratie, où d'ailleurs Madame Le Pen a annoncé qu'il ne siégerait plus avec le groupe allemand de l'AfD, Alternative für Deutschland, puisque la tête de liste allemande a dit que les SS n'étaient pas tous des criminels. Donc du coup, ils étaient 58 la dernière fois dans ce micro-groupe. Mais donc, Monsieur Bardella, vu les projections au niveau européen, il aura un allié en Autriche, deux alliés en Italie. Mais alors, la liste Reconquête, qui annonce siéger dans le groupe des conservateurs de l'ECR, qui a des convictions à l'inverse d'Éric Zemmour. Ils sont pro-OTAN, anti-Poutine, pro-élargissement et élargissement à l'Ukraine, à l'Union européenne, c'est exact contraire de tout ce que défend Monsieur Zemmour. Et donc, le groupe ECR est un groupe ultra-archi microscopiquement minoritaire au sein du Parlement européen.
Donc, Arnaud Stéphane souhaitait réagir.
Français, oui. Pour défendre les intérêts des Français et l'intérêt de la France au sein du Parlement européen, je le dis à tous ceux qui nous écoutent, le 9 juin, l'électeur de la droite, du centre, les gaullistes, je les appelle à rejoindre la seule droite qui peut défendre les intérêts de la France et des Français au sein du Parlement européen, c'est la liste conduite par François-Xavier Bellamy, dont je pense que les pronostics sont largement sous-estimés. Il fait une excellente campagne sur le terrain. Tous nos militants sont mobilisés. Je vois que sa candidature, sa personnalité, vraiment est respectée et entendue. Et je m'en réjouis parce qu'il a été pendant 5 ans.
Même si, je rappelle, hein, 7-8% dans les sondages. Et même Nicolas Sarkozy, l'ancien président, garde son vote secret. Il ne soutient pas officiellement.
Madame Morano.
Une réponse de Nadine Morano et je vous donne la parole, Arnaud Stéphane.
Je voudrais parler là-dessus parce allez-y que j'ai rapidement. Nicolas Sarkozy il y a 2 semaines. Si vous me permettez, j'ai vu, moi, Nicolas Sarkozy, je suis allée le rencontrer dans son bureau, et quand vous lisez l'interview du Figaro, est-ce qu'une seule fois il dit qu'il va voter pour quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il dit une seule fois qu'il va voter pour quelqu'un d'autre?
Non, mais non. Il ne soutient
alors,
pas
ça,
officiellement.
C'est une supputation de journaliste. Je suis certaine que Nicolas Sarkozy votera pour sa famille politique. Dans cet article, il dit notre famille politique. Donc, je n'envisage pas une seule minute à ce que Nicolas Sarkozy vote pour quelqu'un d'autre que pour ses amis qui figurent sur cette liste et pour la liste de François-Xavier Bellamy.
Même s'il ne le dit pas officiellement. Arnaud Stéphane.
Oui, madame, j'entends ce que vous dites sur la campagne de François-Xavier Bellamy. C'est vrai qu'il est solide quand on le voit sur les passages télé. Il est un peu plus embêté quand on le met en contradiction avec certains membres de la liste qui l'entourent. Mais moi, j'aimerais vous faire réagir au tweet de Valérie Ayet de ce matin. Elle nous dit « Je préside Renew Europe et j'assume notre coalition avec la droite et la gauche au Parlement. » Messieurs Glucksmann et Bellamy, ils se planquent. Jamais ils ne vous diront que nous sommes en coalition. Comment vous lisez ça? Vous êtes en coalition avec eux? Vous n'êtes pas en coalition avec eux? Parce que depuis le début de la campagne, il est dit que aujourd'hui, l'Union européenne, enfin le Parlement européen, la majorité est tenue par Monsieur Glucksmann. Y participe. Monsieur Bellamy y participe et Renew y participe aussi.
Monsieur Stéphane, donc justement, je vous invite à regarder les votes. Alors j'entends que Madame Ayet ait besoin de trouver une bouée de sauvetage pour tenter de se sortir de cette mauvaise campagne qu'elle mène et qui est très difficile pour elle. Mais elle rappelait encore ce soir sur le plateau de France 2 qu'elle a voté le pacte asile-migration. Le pacte asile-migration, c'est 10 textes législatifs. Nous en avons, nous, rejeté 7. Nous sommes contre la répartition des migrants dans les États membres et donc en France, dans nos villes et nos villages, tels que Madame Ayet le vante et le veut. Elle a voté pour les textes dits restauration de la nature ou la stratégie de la ferme à la fourchette qui prévoyait la décroissance agricole. Eh bien, nous avons voté contre ces textes. Donc, vous voyez que ce que dit Madame Ayet est totalement faux, en fait. Et vous savez, nos votes sont publics. Et j'invite ceux qui nous regardent, puisque moi, j'ai toujours fait des explications de vote de ce que je vote au Parlement européen. J'en ai fait plus de 1700. Ils sont consultables sur mon site internet, nadinemorano.fr. Donc, je vous invite à aller voir. Et vous verrez que les votes de Madame Ayet et les nôtres n'ont strictement rien à voir. On peut se retrouver sur des sujets, par exemple, comme l'Ukraine, pour défendre l'Ukraine face à l'attaque sur par rapport à la Russie, ou sur Monsieur Navalny, bien évidemment. C'est des résolutions sur lesquelles on peut se retrouver qui peuvent devenir des résolutions communes. Mais pas sur les textes qui sont des textes fondamentaux et sur lesquels nous sommes amenés à décider pour l'avenir des Français à l'Union européenne.
Nadine Morano, dans le fonctionnement de l'Union européenne, et c'est pas à vous que je vais l'apprendre, il s'agit effectivement d'une forme de contrat qui conduit à avoir la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui est issue de votre groupe politique, le haut représentant aux affaires étrangères est issu du groupe socialiste et démocrate. Et là, dans le cadre de la prochaine coalition, dans le cadre de la prochaine législature, Ursula von der Leyen, qui est l'actuelle présidente et qui se propose une nouvelle fois un second mandat, donc de votre famille politique, dit par exemple qu'elle serait prête à gouverner avec Giorgia Meloni, du groupe conservateur réformiste que vous fustigiez tout à l'heure, puisque c'est là que siégerait Éric Zemmour. Du coup, où est-ce que vous vous situez là-dedans? Est-ce que vous soutenez Madame Meloni? Est-ce que vous soutenez Madame von der Leyen quand elle dit on peut gouverner tranquillement avec Madame Meloni en Italie? Où est-ce que vous vous situez?
Alors, Madame Amadi, merci de me permettre d'expliquer à tous ceux qui nous regardent que d'abord, le candidat à la Commission européenne, à la présidence de la Commission européenne, ne relève pas du Parlement européen. Il relève du Conseil européen, c'est-à-dire les chefs d'État.
Oui, mais vous le votez. C'est-à-dire qu'il a la confiance du Parlement, il faut une majorité des votes, et là, en l'État, avec les forces en présence, sans les conservateurs réformistes, elle ne pourra pas être élue.
Bon, donc, si vous me permettez d'aller jusqu'au bout pour expliquer. Donc, c'est le Conseil européen qui présente une candidature pour la présidence de la Commission européenne. Et il est écrit que le Conseil européen doit tenir compte des résultats des élections européennes. C'est-à-dire que si dans les 27 pays de l'Union européenne, c'est le Parti populaire européen qui arrive en tête, le Conseil devra présenter une candidature issue de cette formation politique. En 2019, la candidature que nous avions présentée au titre du PPE s'appelait Manfred Weber, c'était un Allemand que nous avions désigné et qui avait été, qui avait gagné cette candidature devant le PPE, alors qu'il y avait trois autres candidats. Eh bien, le Conseil n'a pas retenu cette candidature. Et la candidature de Madame von der Leyen est apparue comme ça, avec une négociation entre Emmanuel Macron et Madame Merkel, et qui a présenté cette candidature parce que Madame Merkel ne voulait plus garder au sein du gouvernement Ursula von der Leyen, et donc Ursula von der Leyen n'était absolument pas la candidate du PPE, et j'en veux même pour preuve que Madame von der Leyen est tellement la candidate du PPE qu'elle est allée à l'été dernier au meeting de Renaissance avec les partenaires de Monsieur Macron. Donc elle n'est ni la candidate des Républicains, ni la candidate du PPE. Donc, ce qui veut dire que attendez d'abord le résultat des élections, et puis on verra qui désignera le Conseil. Moi, je vais vous faire une confidence. Je souhaiterais que ça soit Michel Barnier. Vous voyez? Je souhaiterais que ça soit Michel Barnier, parce que Michel Barnier, au moins, il a une légitimité et surtout même une unanimité.
Merci, Nadine Morano.
Au sein du Conseil européen.
Merci. J'avais une ultime question très rapidement. Est-ce que vous avez peur de ne pas être réélu? Je rappelle que vous figurez à la 6e place de la liste de François-Xavier Bellamy.
Non, parce que je ne considère pas qu'un mandat ce soit un dû, c'est un devoir, que c'est aux électeurs de choisir. Je fais campagne et je demande leur confiance, je vais sur le terrain. Je pense que nous avons fait un excellent travail avec François-Xavier Bellamy, qu'on a encore beaucoup de travail à faire et qu'on a la chance d'avoir Céline Imar, qui est une agricultrice et qui s'engage sur les questions agricoles. C'est le premier budget de l'Union européenne avec la PAC. Et on a aussi la chance d'avoir le général Gomard, qui est l'ancien patron des forces spéciales. Donc, dans cette période difficile, je trouve que c'est bien d'avoir un militaire. Et je voudrais ajouter que ce serait bien aussi d'avoir Geoffroy Didier, qui est en 11e position et qui est spécialiste de toutes les questions du numérique, des géants de l'Internet et de l'intelligence artificielle. Oui. J'invite tous les électeurs de l'Île-de-France à aller voter pour la liste de Bellamy pour que Geoffroy Didier soit élu aussi.
Merci Nadine Morano, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir sur BFM TV.